Après avoir ce matin, quelque part, pratiqué une mise en jambe du secret de la sérénité, je voudrais, avec François de Sales, entrer d'emblée dans le cœur de son enseignement. Et le cœur de son enseignement, c'est le Sacré-Cœur. Très exactement, la Providence, le mystère de la Providence. C'est pas facile pour moi de parler de la Providence, comme pour tout prêtre d'ailleurs, parce qu'on n'en parle plus. Ce qui fait que les gens finissent par se demander si, quand un prêtre parle de la Providence, s'il ne parle pas javanais. Je vous donne un exemple, il n'y a eu aucune polémique dans ce que je vais dire. Quand j'ai fait mon séminaire, il a été une seule fois question de la Providence, dans un couloir, entre deux cours. Il y avait un groupe de séminaristes qui discutaient de choses et d'autres, et un des grands professeurs est venu, le thème devait porter là-dessus, je ne sais pas. Et il a dit, vous savez maintenant, la Providence, on n'en parle plus. Ce fut le seul enseignement magistral que nous reçûmes. Et puis, tout de suite après avoir été prêtre, comme tout prêtre, je suis allé faire ma retraite annuelle. Et je suis allé dans un foyer de charité, à Tressin pour ne pas le nommer. Et là, il y a un prêtre qui prêchait, qui s'appelle le père Pierre Découvemont. Il a fait, dans toutes ses conférences, une heure d'enseignement sur la Providence, consacrée uniquement à la Providence. Oh, je buvais ses paroles, frères et sœurs. C'est ça la vérité, me suis-je dit. Je suis allé le trouver, je lui ai recommandé tout un tas de lectures. Et puis surtout, ce que je voudrais vous dire, c'est que vous pouvez lire plein de livres sur la Providence, comme on le disait tout à l'heure, sur le parvis de l'église, de la chapelle. Ça ne sert à rien si vous n'entrez pas dans l'expérience de la Providence. Je vous ai dit que j'ai vécu une forme de conversion 15 ans après avoir été ordonné. Mais n'imaginez pas que les conversions, les paliers dans la vie spirituelle, ça ne se fait qu'une fois. Plus récemment, il y a peut-être 5-10 ans, ça se perd un peu dans ma mémoire, je faisais une retraite. Et il y a une personne qui m'accoste, une maman, mère de famille, qui a quelques soucis avec ses enfants, qui n'en a pas. Et je venais de parler de l'union de volonté, quelque chose comme ça. Et elle m'arrête dans un couloir et elle me dit, je ne voudrais pas vous déranger, mais ce que vous m'avez dit me fait penser à une jeune sainte. Chiara Luce. Alors je me suis empressé d'acheter la biographie. Je raconte l'histoire, parce qu'elle est très importante. Si vous accueillez cela, on va être de plein pied après, pour entrer dans ce mystère qui est bouleversant. Moi, ça a bouleversé ma vie, récemment. Voilà, la balle est dans votre camp maintenant. Je ne peux pas vous forcer. Je ne peux seulement que vous attirer. Chiara Luce est une jeune fille italienne qui fait partie des Focolari. Elle a 18 ans, elle joue au tennis avec une de ses amies. Et tout d'un coup, elle ne peut plus servir, elle a mal à l'omoplate. Elle va voir le médecin qui l'envoie chez un spécialiste et on lui découvre une tumeur. Les adhérences reviennent de la tumeur. Elle passe plusieurs fois sur le billard. Elle n'a pas la maturité et donc elle est avec ses parents. énième rendez-vous avec le cancérologue, qui bien sûr a fait des clichés pour savoir s'il y a à nouveau des adhérences. Et le cancérologue lui dit, avec beaucoup de douceur, « Chiara, il va falloir repasser sur le billard. » Réaction première de Chiara. « Oh non, t'as le droit de dire ça. Jésus n'est pas mécontent. Tu as le droit de lui dire « Aïe, j'ai mal quand tu as mal. » Ce qui est très beau, c'est ce qu'elle ajoute, cette jeune. Juste après, elle plonge dans son âme, elle cherche Jésus et elle dit, dans le secret de son cœur, « Puisque tu le veux, Jésus, je le veux bien aussi. » Elle est entrée dans une paix extraordinaire, elle est morte de son cancer, elle a été béatifiée et elle devient un modèle pour énormément de monde. Et moi, à l'époque, c'était les débuts où je prêchais dans les retraites, et bon, ça serait un peu long de vous raconter, mais le Seigneur, moi aussi, me purifiait. Il me faisait passer sur le billard, entre guillemets. Et les nuits étaient perturbées dans les retraites. Non pas que j'appréhendais de parler, tout ça. Vraiment, il m'a donné une grande joie à faire tout ça. Mais c'est le paiement de la purification. Eh bien, je peux vous dire que dans les nuits qui ont précédé, je disais à Dieu, « Pourquoi ? Pourquoi ça ? Pourquoi moi ?» Et à partir de là, je lui ai dit, la nuit qui a suivi, « Puisque tu le veux, je le veux bien aussi. » Mes sœurs, tenez-vous, c'est le meilleur des moyens pour s'endormir. Pourquoi ? Mais parce que quand tu es révolté, c'est ça qui paralyse le sommeil. Quand tu cultives l'inquiétude, c'est ça qui paralyse le sommeil. Mais quand tu t'abandonnes, grand mot, pour faire l'expérience de la providence, alors l'abandon repose et on finit par se reposer. Après ces quelques mots d'introduction, je voudrais rajouter aussi, comme pour les médicaments, vous savez, sur les boîtes de médicaments, c'est marqué « précaution d'emploi ». La voici, la précaution d'emploi pour notre thème. Il est inévitable, étant donné que je vous ai dit, on ne parle plus de la providence. Il est inévitable qu'à un moment ou un autre, on dise « mais qu'est-ce qu'il dit ? Mais je ne comprends pas, comment on peut dire des choses comme ça ?» La deuxième chose, quand vous parlez de la providence, vous allez forcément parler à un moment de la confrontation de la providence avec l'épreuve, la croix que nous vivons tous à un moment ou à un autre. La précaution d'emploi est celle-ci. Prenez tout ce que vous pouvez, mais ne vous fâchez pas, ne vous arc-boutez pas s'il y a une part du message que pour aujourd'hui vous n'entendez pas. Mettez-le au congélateur, ça se conserve très bien. Et puis vous direz à Jésus, quand j'aurai un peu plus grandi, quand je serai moins à cran, quand je serai plus abandonné, tu ressortiras ça du congélateur et je pourrai peut-être l'entendre. Ce que je vous dis là, ce n'est pas pour vous taquiner, c'est ce que j'ai pratiqué. Il y a des choses qu'on m'a dit dans les débuts, comme la croix, j'étais à cran et je ne voulais pas en entendre parler. Et puis après, j'ai vu que ce prêtre, cette religieuse, cette laïque, qui m'ont dit des choses dans ce sens, disaient la vérité. Mais mon cœur était trop fermé pour l'entendre. Et à un moment, il a été davantage ouvert. Et là, j'ai vu la bonne nouvelle, alors qu'avant, je considérais ça comme une sale nouvelle. Est-ce que ça va ? Qu'il est beau, le mystère et le dogme de la divine providence. Il nous dit plusieurs choses. Il nous dit que c'est une présence bienveillante. Quel est le drame de l'homme moderne actuel ? Il a évacué Dieu de sa vie et de la société. Il pense être ainsi plus adulte est plus libre et il se retrouve dans une solitude, il ne comprend pas. Et vous avez là toute l'explication des futures lois, car elles vont passer, vous savez. Ce n'est pas parce qu'on a des politiciens bien cravatés et bien peignés que les lois sur l'euthanasie ne vont pas passer, mais ça va passer en douce. François de Sales. Cette providence touche tout, règne sur tout et conduit tout à sa gloire. Est-ce que vous voyez l'horizon insoupçonné que cela ouvre? Ça veut dire quoi? Au lieu de te croire seul, perdu dans l'univers et dans ce monde qui va de travers, non, non et non, tu n'es pas seul. Non seulement il est à côté de toi, mais tu es lové dans sa main. Et il est même dit dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 10, verset 29, « Nul ne peut arracher les enfants qui sont dans la main de mon Père. » Ô chère maman et papa qui est ici, surtout les mamans, qui avaient une fibre toute particulière pour vos enfants, mais qui portaient souvent l'inquiétude, quand vous vous inquiétez trop pour vos enfants, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous les arrachez de la main de mon Père. Quand vous le vivez, certes douloureusement, mais que vous vous abandonnez, vous les laissez dans la main du Père. Oh, si vous saviez dans les retraites, quand des parents découvrent cela, cela leur donne une très très grande paix. Une présence bienveillante, un sens puissant donné à la vie. Aujourd'hui, pourquoi les gens ne sont pas bien? Parce qu'ils pensent que la vie est indéchiffrable. Ils ne comprennent pas. Alors on vit, et surtout on compense avec la surconsommation, le plaisir. On surfe sur Internet, c'est une véritable addiction, vous comprenez. Alors les gens pensent qu'ils sont libres, non, non, ils sont dans l'addiction. Et les catholiques les premiers. Hein. Il y a un sens très puissant qui est donné aux événements. Vous avez une très belle figure biblique, c'est Joseph, le patriarche Joseph. Vous vous rappelez? Saint François de Sales en parle. Je récapitule l'histoire de Saint Joseph. Saint Joseph est le petit dernier de la famille. Il a des songes. Ils en ont marre de le voir, les frères. Ils le jettent dans une... Asseyez-vous, madame, vous serez gentille. Ils le jettent dans une fosse et puis il est vendu à des marchands. Et il se trouve qu'il est recueilli en Égypte. Et il y a une famine. Les enfants vont chercher du blé, les frères. Ils se cachent, ils ne révèlent pas son identité. Et au bout d'un moment, ils révèlent son identité. Et saint François de Sales dit ceci. Ce n'est pas par vos menées que je suis envoyé ici, mais bien plutôt par la providence divine. Oh les amis, quel changement aurez-vous dans votre vie si au lieu d'en rester à l'écorce des événements ou de décréter que ceci est une catastrophe et que ceci n'en est pas une, si vous vivez avec un regard d'aigle, comme dirait saint Augustin, ayez des yeux chrétiens, si vous voyez cela plus loin que notre bout de nez, comme on dit, eh bien vous verrez la trace de la providence. Je vous partage quelque chose de très simple. Quand j'ai fait mon séminaire, à la fin j'ai été remercié du séminaire. Ma pauvre maman, quand un jour on faisait la vaisselle, elle en pleurait. Comment voulez-vous que ce soit pas autrement, hein? Et je lui dis en faisant la vaisselle, « Maman, pourquoi tu t'inquiètes? Un jour, on en rira. » Et l'autre jour, en refaisant la vaisselle, elle me disait ça. La grâce que j'ai eue quand j'ai été remercié du séminaire, c'est que j'ai rencontré des consacrés qui m'ont dit « Oh, Joël, surtout, n'accusez pas ceux qui vous ont mis à la porte. Bénissez-les, acceptez de ne pas comprendre. Bénissez-les, vous verrez. Tenez-vous. » Au soir d'être remercié, je vais prier dans la chambre d'un séminariste qui me dit « Joël, t'es pas bien. Viens donc, va prier. » Il est assez ouvert à la vie dans l'esprit. Tout simple. Et on prie, on chante. Moi, j'étais pas très frais, vous devinez. Hein. Et il dit « Je vais ouvrir la parole de Dieu. On va demander un signe et une parole, comme des gosses. » Il ouvre la parole. « Vous serez prêtre. » Non, je dis, c'est pas possible. Il dit, mais t'as vu ? Après, on m'a envoyé en Afrique, etc., etc. Si j'avais eu des yeux simplement humains, j'aurais dit catastrophe. Et puis j'en aurais voulu aux personnes. Mais j'ai voulu voir la main de la Providence en tout. Et je comprends maintenant tout ce qui m'arrive. Parce que je peux vous dire que prêcher à plein temps, là, il faut que j'aille en Israël, il faut que j'aille au Chili. Mais c'était impensable, mes amis, dans ma tête. Si j'avais vu les choses de manière humaine, j'aurais tout bloqué. J'aurais bloqué Dieu et son action. Voici ce que conclut le saint évêque de Genève. Le monde aurait appelé bonne chance ou heureux hasard ce que Joseph appelle un dessein de la Providence. Un autre point, une attention au réel. L'Église, avec sa profession de foi en la Providence, est certainement l'institution qui a la plus grande attention au réel. Alors bien sûr, les médias et le monde ne vous dira le contraire. Qu'est-ce que nous dit François de Sales? Et par exemple, nos chercheurs qui nous reçoivent, ça va vous parler, parce que je vous signale que si c'est dans le livre, c'est de votre faute, mes sœurs. Parce que c'est vous qui m'avez donné cette citation. Elle se reconnaîtra. L'article 3 de votre directoire spirituel, n'est-ce pas, mes sœurs, dit ceci. Les sœurs qui voudront faire des progrès dans la voie de notre Seigneur, qu'elles ne négligent pas les petites choses qui leur semblent de peu d'importance. Pourquoi il y a peu de transformation dans nos vies chrétiennes, mes chers amis? C'est parce que nous avons une vision d'un Dieu grossiste, alors qu'il agit en détaillant. Je veux dire qu'il est impliqué dans les détails de ta vie. Vous participez à la récollection aujourd'hui. En fait, je suis arrivé depuis hier, puisque j'ai vu les sœurs, tout ça. Et avant de venir, hier matin, ou dans la nuit d'ailleurs, puisque je suis allé adorer la nuit, j'ai dit à Jésus, « Je te signe un chèque en blanc sur les 2 jours qui viennent. Je veux qu'il y ait des grâces dans les gens qui vont venir. » Donc, je ne veux aucun nom dans mon cœur, au moindre petit détail qui arrivera. Il y a eu des petits détails, de rien du tout, ne serait-ce qu'un dans lequel vous êtes confrontés aussi. Il ne fait pas super chaud, non? Et je vous signale qu'ici, moi, je n'ai pas de tapis avec un machin chauffant. Donc, vénard hein, que vous êtes. Hein. Eh bien, et à une sœur qui me dit avec beaucoup de délicatesse, « Mon père, il faudrait peut-être qu'on vous mette un soufflant, tout ça. » Bon, j'ai dit « Laissez le soufflant souffler. Hein. » On va faire avec, et puis surtout, je vais offrir ça, je vais l'accueillir. Retenez bien ce mot, accueillir les riens. Accueillir les riens. et les vivre avec lui. Ça changera beaucoup, beaucoup de choses dans votre vie. Eh bien, je vais vous dire, à la fin du premier enseignement ce matin, à part le bout des doigts, pour dire les choses simplement, j'ai même pas senti le froid. Rappelez-vous que les sœurs, et attention c'est pour nous aussi, ne négligent pas les petites choses qui leur semblent de peu d'importance. Il y a une chose que j'entends souvent dans les retraites ou parmi les chrétiens qui sont vraiment généreux, qui veulent faire une expérience de Dieu. Ils disent souvent ceci. Mon père, comment ça se fait qu'après tant d'années de vie chrétienne, je vais à la messe tous les dimanches, et il y en a même qui vont à la messe en semaine. Je dis le chapelet, tout ça. Comment ça se fait que je suis si peu transformé? C'est là qu'il faut chercher, mes amis. Le matin, supposons nous allons à la messe, nous recevons, en quelque sorte c'est une image, nous recevons des charbons ardents, le feu de Dieu. Le gros problème, c'est que si en sortant de l'église, tu veux tout organiser et tout maîtriser de ta vie, si tu veux passer ton temps à dire non au moindre petit détail de ta vie, c'est comme si tu ne soufflais plus sur les charbons ardents et tu t'étonnes qu'en fin de journée, en fin de mois, en fin de vie, les charbons sont éteints. Mes frères, mes sœurs, le bon Dieu me donne de voir ça dans les retraites, dans les âmes, c'est une clarté. Si vous voulez connaître un grand renouveau dans votre vie chrétienne, prenez à bras-le-corps les détails. Rappelez-vous François de Sales, il s'occupe de tout. Mais vous avez deux solutions, ou c'est non, ou c'est oui, sur les détails. Dès que c'est non, si vous étiez là ce matin à l'enseignement, il n'y a pas plus respectueux que Dieu vis-à-vis de ma liberté. Dès que je dis non à un événement, moi ce matin j'avais deux solutions, soit m'agacer du froid, soit le choisir. Je l'ai choisi. Et le froid n'est plus le froid. Et il y a plein de détails comme ça. L'autre jour, je vais à Paris, lieu où j'aime pas du tout aller parce que c'est un peu différent de Guingouette, vous devinez, au niveau de la circulation. Hein. Bon, tout ça, c'est pas facile. Bon. Comme je suis un peu plouc, voilà, je préfère ma campagne de loin. Bon. Et je le revendique. Ils sont tous malades là-bas. Bon. En tout cas, vous êtes sur le périphérique, vous avez sans arrêt des gens qui freinent devant vous. Quoi. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'aurais dit, ah pauvre imbécile, on va dire les choses comme ça. Et puis maintenant, je profite du détail. C'est arrivé quand je suis allé la semaine dernière ou la semaine d'avant à Paris. Il y a plein de gens qui font du slalom et tout ça. Et puis il y a des gens qui se mettent devant vous et qui pilent. Et qu'est-ce que je dis? Ben je dis, Jésus, béni soit le monsieur. Il aura à répondre de sa manière de conduire. Moi, j'ai à répondre de ma manière dont je reçois quelqu'un qui est indélicat. Et donc, voilà. Et qu'est-ce que ça produit? Mais ça enlève plein de fatigue. Nous ne réalisons pas les fatigues extrêmement importantes, ce qu'on appelle des micro-fatigues, pour des non-acceptations de rien. Et puis alors, vous qui êtes en famille, combien d'épouses me disent ça? Quand mon mari me confie la voiture, mais ça me stresse. Il est toujours en train de rouspéter après, je sais pas quoi. Tiens, il y a un gros camion devant nous. La vie est invivable. Vous comprenez, c'est plus simplement soi que c'est invivable. C'est la vie de famille, l'entourage qui est invivable. On ne réalise pas, les amis, c'est des riens la providence, des riens. Alors il nous faut nous arrimer à la providence. Et c'est ça qui change beaucoup les choses. Et un autre point important, prendre les choses, les fameux détails, un après l'autre, dans la providence. Et là, François de Sales a quelque chose à nous dire de très important. Je voudrais vous donner, pour vous mettre en appétit, parce que vous pourriez vous dire, François de Sales, oui, d'accord, mais enfin, ça date un peu. Confidence d'un confrère prêtre qui était très stressé. Il me disait ceci. Depuis que je me suis décidé à voir la main de la Providence en tout ce qui m'arrive, ce qui me plaît, ce qui me déplaît, voilà, le peu de monde à la messe, etc. J'ai cessé de subir les événements, me dit ce prêtre. Désormais, je les choisis, j'accueille tout ce qui m'arrive des mains de la Providence, ça change tout. Écoutez la finale, vous qui êtes venus pour la sérénité. Je suis beaucoup moins écrasé et dispersé qu'au début de mes premières années de ministère. Je vis, je suis davantage prêtre parce que je laisse davantage Dieu être le prêtre de ma vie. Aujourd'hui, nous entrons dans un rythme 5G qui n'a rien à voir avec la 4G, paraît-il. Je n'ai pas fait l'expérience, hein, mais enfin, c'est ce qu'on dit. Et nous pourrions penser que notre ami François de Sales, qui était un évêque de province il y a 400 ans, bon, la vie devait être beaucoup plus cool qu'aujourd'hui. Attention, attention, attention. Il a un mot, une expression de son temps, qui rejoint étrangement ce qu'on appelle aujourd'hui le stress, la pression. Et lui, avec le langage du 17e, on appelait ça la presse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la pression, quoi. Et un jour se présente à lui la jeune Madeleine de Mouxy, qui est très inquiète de nature et très inquiète à propos de sa vocation. Et là, dans ses multiples lettres, ses tonnes de lettres, il lui écrit et il livre son expérience, comment il apprend à ne pas tomber dans le piège de la presse, de la pression, de se laisser, voilà, on va tout vite à précipitation, il faut tout faire tout en même temps. Écoutez-le. Ma fille, faites comme moi. Je suis sur mon départ pour aller à Milan. J'ai tant d'affaires, plus de 50 lettres à répondre. Si je voulais m'empresser parmi tout cela, je me perdrais. Mais je ne veux ni m'empresser, ni me troubler. Cette nuit, je ferai autant de réponses que je pourrai. Je dormirai, et demain, je ferai de même et je continuerai jusqu'à ce que j'ai achevé. Faites comme moi, ma fille, car le temps est nôtre. Le grand intervieweur du pape Benoît XVI, Peter Seward, demandait dans Lumière du monde, il venait d'être pape, « Votre sainteté, comment vous faites avec toute cette pression ?» Réponse de notre pape émérite. « Je prends une activité après une autre. » Qu'est-ce qui nous stresse, les amis ? Dans une journée, on a une occupation, on la traîne dans notre esprit, on en a une deuxième, on la traîne encore dans notre esprit, puis après on en a une troisième, et vous vous étonnez que le soir il y ait de l'épuisement et du stress. Je vais vous donner quelque chose de très actuel. J'ai eu des problèmes de dos à un moment, j'étais en paroisse, j'étais vicaire, et la providence est bonne, une paroissienne me dit « Je vous donne ma place chez un ostéopathe. Je vous préviens, c'est une des meilleures mains de Nantes. Et vous allez voir, m'ajoute cette dame, il est impressionnant, on est là, on a l'impression qu'il n'y a que nous qui comptons pour lui. » Je me suis dit, un peu sentimental, je veux voir. Je suis allé, il m'a soigné, il m'a fait un bien fou. Et puis, je suis allé une ou deux fois, trois fois. Effectivement, j'ai vu que ce que disait cette dame était vrai. Alors, comme on commençait à bien s'entendre avec cet ostéopathe, je lui dis, est-ce que je peux être très simple avec vous? Je voudrais vous demander, comment vous faites? Vous avez des tonnes de personnes à manipuler dans la journée, parce que je peux vous dire que la journée commençait le matin tôt et se terminait tard. Hein. Et on est là, on a l'impression que, voilà, il n'y a que nous qui comptons pour vous. Ben, il dit, je vais vous dire mon secret, mon père. Entre chaque patient, étant donné que j'ai touché des corps et des dos, je vais me laver les mains. Ben, je fais comme Pilate, je me lave les mains. Et il précise, je me lave les mains au sens où je dis, ce patient s'est terminé. Hop, un tout nouveau. En fait, il était complètement, non pas dans le moment présent, mais dans le patient présent. Ça suppose, les amis, une grosse ascèse, parce que le monde actuel nous pousse à la précipitation et au stress. Il y a quelque temps, je suis allé dans un monastère, 80 moines. J'ai dit, mais ils vont me tuer. Et puis en plus, il y en a qui venaient plusieurs fois. Puis en plus, il y avait des gens de pays étrangers, donc je comprenais, enfin, il fallait que je tende l'oreille, je ne comprenais pas toujours tout. Et j'ai dit à Jésus, en plus, il y avait des enseignements, enfin, vous voyez bien, et puis il y avait la prière de nuit à 3 heures du matin. Hein. Bon, les journées étaient bien remplies, disons, même les nuits. Bon. Et je disais, avant que commence l'entretien des frères, Jésus passe devant. Je ne veux me soucier que d'un frère à la fois. Je ne veux pas me soucier, quand j'ai un frère, de celui que j'ai avant. Je te le redonne une fois que c'est fait. Et je ne veux pas m'inquiéter de combien il en reste. Comme ça. Un peu comme quand on égraine le chapelet. Si vous êtes très pressé, vous allez égrainer tous les grains en même temps. Si vous êtes à peu près pieux, vous allez en égrainer un seul à la fois. Le directoire spirituel des sœurs visitandines. Les sœurs voudront prospérer et faire progrès en la voie de notre Seigneur. Elles doivent pour cela recevoir toutes choses comme provenant de la main paternelle de notre bon Dieu et Sauveur. Alors là, mes sœurs, adoptez ce truc de Saint François de Sales. Vous avez entendu ? Accueillir toute chose comme provenant de la main paternelle, donc si vous préférez, de la Providence. Alors, on entre dans un autre point, on va y aller progressivement, se laisser surprendre par la manière d'agir de la Providence. Il y a une personne tout à l'heure sur le parvis, je garderai la discrétion, elle se reconnaîtra, les autres personnes qui étaient là aussi, mais elle a dit quelque chose de très important. Il semblerait que cette personne butait, il y a quelque temps, sur l'abandon à la Providence. Elle a été très simple et s'est exprimée, et elle dit, « Ah, mon père, je crois que j'ai compris. Il faut que je ne cherche pas à tout comprendre. » Elle avait compris qu'il faut qu'elle ne cherche pas à tout comprendre. Ça, c'est une autre clé. Vous allez me dire, mais pourquoi ? Faut devenir la foi du charbonnier ? Faut devenir bête ? Non. Mais t'es qui, toi, par rapport à la Providence ? Dit Dieu à Job. Les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Il m'a remercié du séminaire. Ce fut le grand cadeau de ma vie. Mais je ne vais pas vous dire que sur le moment, j'étais fier. Et je ne vais pas vous le dire sur le moment que j'étais très heureux et que j'étais très en paix. C'était une nuit terrible. Mais il est capable de ce que Joël Guibert considérait comme un mal, lui voyait plus loin et s'en servait pour un bien. Il m'a purifié en Afrique, je suis revenu un peu plus pacifié. Et puis là, je vois depuis quelques années, avec cette expérience que j'essaye de vous dire si maladroitement, de l'abandon à la Providence, je peux vous dire, je ne me reconnais pas. je suis bien le même, mais je ne comprends pas trop. Et donc, vous comprenez, quand j'essaye de vous dire que la vie en Dieu transforme vraiment, ce n'est pas des clichés de commercial que je viens de vous dire. Je le touche du doigt dans ma propre vie. Et je le touche du doigt dans la vie des gens qui osent expérimenter cela. À chaque fois que va se présenter, après nous être quittés, appliquez ça la semaine prochaine. Retenez bien ça en arrière-fond comme une petite musique. À chaque fois que va se présenter une rencontre, une situation plaisante ou déplaisante, à chaque fois qu'il va y avoir une tâche nouvelle à accomplir, chacun de nous se trouve devant un choix. Où je vais choisir l'événement, où je vais le subir. Dès que vous le subissez, je vous signale que cela décuple la souffrance, le moindre psy vous le dira. Dès que vous vous arc-boutez contre une situation que vous ne pouvez pas changer, ça décuple la souffrance. Il y a une prière qu'on évoquait aussi sur le parvis de l'Église, qu'on attribue à François de Sales, mais que certains autres attribuent à Marc Aurèle. En fait, on ne sait pas de qui ça vient. Alors, la personne qui était là tout à l'heure la dirait mieux que moi, mais en substance, c'est « Allez-y, madame, aidez-moi » qui disiez ça tout à l'heure, pour les alcooliques anonymes, là. C'était comment ?« Fais, Seigneur, donne-moi la grâce, Seigneur, de changer les choses qui peuvent être changées et d'accueillir les choses qui ne peuvent pas être changées. » Par contre, dès que je vais choisir, c'est-à-dire « je veux bien Jésus » ou Chiara Luce ou Saint François de Sales que je vais citer à l'instant, eh bien ça, c'est comme une autorisation pour Dieu. Que fait-il ? Il vient et il va intervenir, mais faut lui laisser la manière et le scénario pour intervenir, c'est pas forcément le tien. Moi, quand j'ai été remercié du séminaire, c'est pas ce que j'aurais choisi. Mais son plan était nettement meilleur que le mien. Et si vous avez déjà fait l'expérience de la Providence, vous aurez fait cette extraordinaire expérience que quand on laisse faire Dieu, parfois il a beaucoup d'humour, il va ouvrir, nous on n'aurait vu qu'une porte à ouvrir, sur une porte blindée, il va en ouvrir deux, trois. Il s'amuse. Et toi, au bout d'un moment, quand tu vas commencer à dire oui, tu vas t'amuser avec Dieu qui s'amuse. Quand on subit l'événement, nous dit François de Sales, c'est comme si quelqu'un, on déposait un médicament pour sa maladie et elle dit « Ah ben ça y est, j'ai reçu le médicament, tout va bien. » Le problème, c'est qu'il faut l'avaler. Écoutez-le. Si un malade reçoit un médicament dans sa main, mais ne l'avale pas, il a bien reçu le médicament, mais sans vraiment le recevoir, inutilement, sans que le médicament puisse agir. De même, nous recevons la grâce de Dieu en vain lorsque nous la maintenons à la porte de notre cœur, on rejoint Apocalypse 3:20 ce matin, sans que notre cœur y consente. Dès que je ne dis pas oui, Jésus dit « Bah, tu m'as pas dit oui ». Je reste à la porte. Et la transformation possible est impossible. Nous recevons le médicament sans le recevoir et la providence ne portera aucun fruit. Pourquoi au moment de la providence, au moment de l'épreuve, c'est impossible à comprendre ? Parce que l'épreuve te met par terre. Bien évidemment. Moi, j'étais complètement par terre. Et donc, c'est surtout pas le moment de comprendre. Pourquoi ? Parce que si tu veux comprendre avec ta petite tête, et la mienne est encore plus petite, Étant donné que les décrets de la Providence, les scénarios de la Providence sont tellement, tellement plus grands que notre pauvre petite cervelle, si tu lui dis à tous les coups ce qu'il faut qu'il fasse, ben il ne fera pas, il ne fera rien. Et puis surtout, tu te priveras de ces scénarios extraordinaires, dans l'ordinaire. L'intelligence de l'homme est très limitée, dit-il. Aussi, lorsque par trop de curiosité, l'homme cherche les causes et les raisons de la volonté divine, il finit par s'embarrasser de mille difficultés qui finissent à leur tour par l'enserrer dans un filet dont il ne peut se défaire. Une application concrète contemporaine. Je n'ai pas rencontré cette personne, j'ai juste reçu une lettre de sa part. Je vous en fais part. J'avoue, j'étais dans l'action de grâce. Une dame mariée, des enfants, d'un certain milieu, semble-t-il, puisque le mari a une petite entreprise. Tous les deux profondément catholiques, les enfants aussi. Difficulté, je me demande si ce n'était pas en 2008 avec la crise des subprimes. Et donc, entreprise, clé sous la porte. Vous devinez, dans ce milieu-là, voilà, cette femme est très équilibrée. Elle commence à pas être bien du tout, et elle tombe en dépression. Vous imaginez le mari, obligé de faire la cuisine, s'occuper des enfants, et d'avoir le soutien de son épouse qui est complètement mal, délabrée, toute la journée, allongée sur le lit. Bien. Et cette femme me raconte avec beaucoup d'humour dans sa lettre, il y a une amie catholique qui me donne votre premier livre, « Renaître d'en haut ». Et elle lui dit, « Je vois que tu n'es vraiment pas bien, tu sais, ce livre m'a fait du bien, lis-le. » Et la dame qui m'écrit me dit, « Vous savez, quand on est dans la dépression, on n'a surtout pas envie de lire des affaires du bon Dieu. Donc votre livre, je l'ai laissé sur la table de nuit, je n'ai surtout pas touché. » Et puis comme les journées étaient un peu longues, quand tu passes ton temps à être allongé et pas bien, elle dit, tiens, je vais jeter un œil par hasard. Elle l'ouvre. Et elle me dit dans la lettre, vous avez dit à un moment de votre livre que tout pouvait avoir un sens pour Dieu, pour peu qu'on se livre à Dieu et qu'on lui fasse confiance et qu'on s'abandonne. Ça a créé chez moi un déclic. Et j'ai osé me dire, et si ma dépression... il y avait un sens. Deux jours après, elle n'était plus allongée 24 heures sur 24. Elle faisait la cuisine. Des semaines après, bien sûr, avec l'accord de son médecin, elle ne prenait plus de médicaments. Et 6 mois après, Jésus lui a montré dans le rétroviseur quoi ? Le bien qu'il a sorti d'un mal, car excusez-moi, mais se trouver au chômage avec une entreprise périclitée qui périclite comme ça, c'est terrible, c'est pas un bien. Eh bien, elle m'a dit ceci dans sa lettre. Vous savez, dans notre milieu, quand un monsieur met la clé sous la porte, c'est l'humiliation complète. Il savait pas, il a pas su mener sa barque. C'est un nul. Et le bon Dieu m'a guéri de ce que les autres pensent de moi. Je suis maintenant une femme libre. Et sans parler de la dépression qui était complètement derrière. Qu'est-ce qui a été le déclic pour elle ? Alors, elle était bien placée pour vous dire que c'est une souffrance douloureuse, parce que les dépressions, c'est pire que les mal physiques, les maux physiques. Hein. Un père de l'Église dit que bon, on ne connaît pas à l'époque le mot dépression, mais Diadoque de Fautissé dit, un père de l'Église, dit que ce sont des souffrances proches de l'enfer. S'il y en a parmi vous qui ont vécu cela, ils savent ce que c'est. Et au cœur de cet enfer, elle a osé croire que Dieu était capable de s'en servir pour un plus grand bien. Et elle en est sortie. Vous devinez, recevoir des courriers comme ça, c'est extraordinaire pour moi. Je suis vraiment bouleversé. Nous ne pouvons discerner ses intentions à Dieu, ses chemins, ses moyens, dit encore François de Sales. Même si nous le faisions dans un bon esprit, nous resterions à court et nous nous perdrions en chemin. Les voies de la Providence sont perturbantes. C'est donc le problème de la croix. Vous savez, il faut tellement... Les personnes qui ont été instruments de la part de Dieu pour me faire basculer dans cette expérience, ils ont dû me répéter 36 fois la même chose. Tellement on est à cran et on ne veut pas entendre. Puis à un moment, ça gagne du terrain, la providence grignote, et puis au bout d'un moment, on cède. Et là, on entre dans la vraie vie. Quelques convictions. Dieu ne veut jamais directement le mal. Mais dans sa providence, ce mal qui ne vient pas de lui, mais qui vient du péché des hommes et des anges déchus. Dieu ne veut jamais directement le mal, mais ce mal qu'on lui impose, car lui n'est pas du tout à l'origine, il est capable de s'en servir pour un plus grand bien. L'ami dont je vous ai parlé ce matin, qui est mort il y a quelques semaines, avec son cancer. Il n'est pas mort du cancer. Quand il a eu 50 ans, je lui ai dit, « Non, Louis, tu ne mourras pas de ton cancer. » Et comme son papa était mort très jeune, et je vais le redire, il était d'un tempérament extrêmement inquiet, il était persuadé qu'il n'allait pas vivre longtemps. Il a vécu très longtemps. Il est mort du cœur qui a lâché. Alors c'est intéressant, parce que c'était un... Donc celui qui est bouffé du curé, hein. C'était un esprit extrêmement inquiet de nature. Je dis ça pour vous rejoindre, les personnes qui sont facilement angoissées parmi vous. Et il a fait son cancer, après il a fait la retraite dont je vous ai parlé, et là il a découvert Dieu. Et puis après il y a un prêtre de Nantes qui a Kerkennec, je ne vais pas dire son nom par délicatesse pour lui, mais qui a été instrument de la Providence, qui a parlé de Thérèse de Lisieux à Kerguenec. Et là, il a reçu Thérèse de Lisieux comme sa grande sœur. Et ce même Louis a découvert la Sainte Vierge, lui qui était une sorte d'armoire à glace. C'était beau. Pour moi, il n'y a rien de plus beau qu'un homme. Il n'y a rien de plus beau qu'un homme qui devient enfant entre les mains de la Vierge. La femme, c'est spontanément plus facile, souvent. Mais un homme, c'est souvent un blindé, un peu. On est un peu bourde de coffrage. Hein. Bon, c'est pas pour moi. Pas pour vous. Bien. Et donc, il a grandi. Je l'ai connu pendant de nombreuses années. Et je voyais bien son tempérament facilement inquiet. Et tenez-vous, dans les derniers jours de sa mort, son cœur commençait à lâcher. Il était à l'hôpital, en assistance respiratoire. J'étais à prêcher à côté du golfe du Mexique, à la Martinique, chez Jean-Hugues, là. Et tout d'un coup, en pleine nuit, du fait qu'il y a le décalage horaire, il ne dormait pas. Ce fut la dernière échange. Donc lui, il était 2h du matin, moi, il était 6h de moins. Et tout d'un coup, je vois mon Louis qui me téléphone, et on parle. Curieusement, il parle. Et il me dit vers la fin de notre entretien, « Père Joël, je suis dans une paix incroyable que je n'ai jamais connue de ma vie. » Il était au bord de mourir. Et je lui dis, « Louis, explique-moi. Je sais vers qui je vais. » 3 jours après, il décédait. Et sa femme, qui est infirmière, donc excusez-moi, elle connaît quand même les corps et le cœur, et elle connaissait son époux. Elle m'a dit, il a été jusqu'à la fin dans une paix inaltérable. On dirait que sa paix a comme contaminé ceux qui l'ont côtoyé. Et cela a rejailli jusque dans la sépulture, qui était presque joyeuse, même pour elle, son épouse. Que vivait-il ? Il vivait la foi en la Providence. Mais vous savez, ce n'est pas des petits convertis. Hein. Vous savez que malade, vous savez ce qu'il faisait sans le dire à sa femme. Il se levait la nuit comme Thérèse de Lisieux, parce que sa sœur de sang avait le cancer, et il disait, je veux obtenir la guérison de ma sœur. Il se levait la nuit, marchait dans le couloir, il faisait 1 kilomètre en priant. Quand j'ai su ça, non, il y a vraiment des trésors de vie spirituelle cachés chez les gens. Et ça a produit une mort de laïc, vous m'entendez, d'un fidèle, pas d'un consacré, et qui revenait de très loin, et qui était inquiet et angoissé de nature. L'abandon à la Providence, surtout dans la croix, produit un fruit extraordinaire. Marthe Robin disait, si on savait ce que les déserts peuvent produire comme oasis, si nous disons oui. Un des saints des pères de l'Église qu'affectionne énormément et qu'il cite énormément, François de Sales, c'est saint Augustin. Donc, repris en plus par saint Thomas d'Aquin, voici ce que dit saint Augustin. Dieu Tout-Puissant ne laisserait jamais un mal quelconque exister dans ses œuvres s'il n'était assez puissant et bon pour faire sortir le bien du mal lui-même. Au moment de la croix et de l'épreuve, tu ne peux pas comprendre. Mon frère s'est fait tuer, j'avais 15 ans, il en avait 17. Il s'est fait tuer par quelqu'un qui avait plusieurs grammes d'alcool, semble-t-il, dans le sang, qui l'a traîné. Enfin bon, heureusement qu'il soit mort. Et il est mort au bout de la route. Bon. Moi, ce fut difficile, mais est-ce que vous supposez, les mamans, ce que c'est pour une maman ? Maman qui a la paix ne comprendra véritablement cette affaire-là qu'au ciel. Voilà. Mais ce qui est très beau, c'est que je la réentends récemment, donc ça faisait, attendez que je calcule, ça fait 40 ans. La voisine vient de perdre son frère et elle lui dit pour la consoler, « Michel, on n'oublie pas. Non, non, on n'oublie pas la mort, surtout d'un enfant. Mais avec le temps, avec le bon Dieu, il y a des choses qui se pacifient. Mais sur le moment, comment voulez-vous que quelqu'un parle comme ça de la Providence ? Ça aurait été peut-être trop violent. Et pourtant, j'avais un grand-oncle qui était évêque missionnaire en Afrique. Je le revois parce que j'étais tout jeune. Maman est tombée dans ses bras, c'était son parrain. Et il lui a dit des paroles de ce type. Et parce qu'il le pouvait, parce qu'il le pouvait. Je vous donne une petite phrase. Il va être l'heure bientôt. Je voudrais vous laisser un petit sas, ne serait-ce que pour les prêtres s'installent. Je vous donne une petite phrase qui peut vous aider, comme ça, des mots simples. Quand vous êtes dans l'épreuve, je vous ai dit, c'est pas le moment pour comprendre les desseins de la Providence, c'est uniquement le moment de lui faire confiance. Et n'ayez pas peur de lui dire « j'ai mal », il entend, et il se moque pas de vous, il n'est pas froid. Vous pourriez dire ces paroles, « Jésus, je ne comprends absolument rien à ce qui m'arrive. Je ne parviens pas du tout à voir ta main dans cette épreuve. Mais j'arrête d'être armé jusqu'aux dents contre toi. Je me rends à ton amour. Je m'abandonne sans condition. Et tu me donneras, quand tu le jugeras bon, si tu le juges bon, de comprendre. Quelle grâce d'entrer là-dedans. Parole de François de Sales pour terminer. Les petits enfants ne pensent point que leur père veuille les battre. Ainsi devons-nous faire envers Dieu, le révérant comme notre Père, le servant avec amour, sans appréhension des supplices, ni prétention de récompense, nous laissant porter entre les bras de sa providence, ainsi qu'il lui plaira.